Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce.
On retrouve Manuela à Fiji.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Storia Voce et merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission « Nos mémoires » consacrée à la ville d'Ostie, le grand port de la Rome antique. Alors la semaine dernière, nous avons retracé dans les grandes lignes son histoire depuis les travaux de l'empereur Claude, ceux de Trajan, son âge d'or, commercial et urbain, jusqu'à son déclin et son abandon. Eh bien nous nous intéresserons aujourd'hui aux fouilles archéologiques qui ont permis de la redécouvrir, de comprendre son fonctionnement, ainsi que la vie de ses habitants. Et pour cela, j'accueille de nouveau Paolo Tomasini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, membre de la section Antiquité de l'École française de Rome, grand connaisseur d'Ostie, qui est d'ailleurs votre objet d'étude. Alors, la semaine dernière, Paolo, nous avons vu que la ville d'Ostie, ensablée, a été abandonnée, mais non point oubliée. Elle ne meurt jamais, c'est ce que vous nous aviez dit. Et c'est le XVIIIe siècle qui marque le début d'un regain d'intérêt archéologique.
Regain d'intérêt archéologique, mais la découverte d'Ostie date de bien avant, puisque Ostie n'a jamais été vraiment oubliée, même si elle était ensablée. On savait qu'il y avait à cet endroit les restes du grand port de Rome et de la ville qui fonctionnait avec le port. Et après, effectivement, c'est un fait que pendant tout ce qu'on peut appeler les âges obscurs de l'archéologie à Ostie, Ostie n'était pas considéré comme un lieu à redécouvrir, mais comme une carrière où prendre d'abord du matériel de construction. Et ce n'est pas un hasard si le lieu où est situé aujourd'hui le site archéologique d'Ostie était appelé la Calcara, donc l'endroit où l'on prend les pierres pour les brûler ou en faire de la chaux pour construire. Donc Ostie est une carrière à ciel ouvert qui sert très tôt comme lieu justement pour prendre des matériaux de construction. Et ce n'est pas un hasard si le dôme de Pise, de la cathédrale de Pise, est construit avec des blocs qui viennent d'Ostie. Et les visiteurs les plus attentifs pourront regarder différentes parties de la cathédrale et se rendre compte qu'il y a des pierres avec des inscriptions où il est écrit « Ostia » ou « Colonia » et des éléments qui nous montrent que plusieurs matériaux de construction viennent d'Ostie. Après, nous avons plusieurs récits, notamment Richard Cœur de Lion, qui arrive, débarque sur le littoral. Il n'arrivera pas à Rome, il n'ira pas voir le pape, mais en tout cas...
Au moment de la Troisième Croisade.
Oui, on sait qu'en 1690, il débarque à l'embouchure du Tibre, et les chroniques nous parlent que autour, il voit des grandes ruines, et il voit le phare de Rome, donc le phare de Rome, ou ce qui reste du phare, encore visible. Et il nous parle de rues pavées de marbre, ce qui est quelque chose d'exceptionnel à citer dans cette chronique, mais en tout cas, on a le souvenir de quelque chose de passé. Ce souvenir, pendant la Renaissance, attisa la convoitise de plusieurs personnes qui voudront chercher non plus du marbre pour faire de la chaux, mais des trésors, puisque c'est la grande chasse aux trésors partout en Italie, de chercher des statues et autres trésors artistiques pour remplir les galeries des collectionneurs. Et plusieurs sont les collectionneurs qui feront des fouilles à Ostie. On sait que les Medici notamment auront le droit de saccager Ostie. Et nous savons que, notamment au XVIIIe siècle, c'est le pape qui donnait l'autorisation pour fouiller, et de grands pionniers de l'archéologie vont, comme Gavin Hamilton par exemple, vont avoir l'autorisation de découvrir des structures. Ils étaient intéressés non plus par les statues, mais aussi par les inscriptions, parce que c'est le début de l'épigraphie, de l'histoire de l'archéologie également. Donc on a toutes les traces de ces trous, on peut les appeler comme ça, mais organisés, mais réalisés un peu au hasard, sans aucune envie de découvrir des structures d'une ville, mais véritablement de trouver des trésors. Et nous avons par exemple les lettres d'Hamilton qui nous décrit comment il trouvait des endroits où fouiller. Et des lettres assez intéressantes où il nous dit qu'il va près de la mer, là où il peut voir encore des structures qui n'étaient pas complètement enfouies, parce que là, selon lui, il y avait plus de chances de trouver des belles choses. C'est ça qu'il recherchait.
Donc l'intérêt scientifique n'est pas encore là.
Non, bien sûr, il n'existe pas. L'intérêt scientifique commence à un moment où c'est le pape, notamment Pie VII, qui va mettre un arrêt sur ces fouilles parfois sauvages, en tout cas de cette chasse au trésor. Il va mettre un arrêt et en 1801, nommer un directeur des fouilles d'Ostie. Et on sait que c'est un des grands personnages de l'archéologie moderne, qui est Giuseppe Petrini, qui va commencer des fouilles. Mais encore une fois, ce ne sont pas des fouilles qui ont un intérêt vraiment scientifique, mais plutôt un intérêt de mettre un arrêt à ces fouilles et de dire que c'est le pape qui a le seul a le droit de fouiller ces territoires. Après, le pape va donner la concession à d'autres personnages plus tard, mais c'est véritablement à partir de la moitié du XIXe siècle où là, on aura à nouveau, avec les frères Visconti, la volonté de remettre au jour ce qui n'est plus un endroit où trouver des trésors, mais une ville. Et c'est à partir des années 1850 où on aura véritablement l'envie de retrouver une ville et où ces trous qui sont laissés dans la fabrique urbaine d'Ostie vont être connectées entre eux pour donner enfin l'apparence d'un vrai site archéologique, d'une vraie ville qui va progressivement être remise au jour.
Alors là on est en 1850, en 1870 il y a un coup d'arrêt à ces fouilles, pourquoi ?
L'unité d'Italie arrive. Du coup le pape perd la possession de ces territoires, pas complètement, mais en disant les territoires d'Ostie deviennent en partie propriété de l'État italien. Et c'est l'État italien qui va reprendre en main les fouilles, qui ne s'arrête pas, mais qui change, tout simplement, et qui prennent une allure de plus en plus systématique. Et ces fouilles vont continuer pendant toute la fin du XIXe siècle à un bon train, où l'objectif et devient véritablement de découvrir la ville petit à petit.
Pour ce qu'elle est.
Pour ce qu'elle est, et pas uniquement pour les trésors artistiques qu'elle peut offrir.
Alors, on a des grandes campagnes de fouilles de 1913 à 1946, et puis il faut aussi également parler de la période de 1938 à 1942, où les fouilles sont particulièrement intenses, avec Mussolini notamment. On sait que la propagande mussolinienne tente à exalter le passé romain auquel on veut se rattacher. Est-ce que c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre l'intérêt alors pour Ostie ?
Le fascisme, bien sûr, est arrivé à Ostie, comme partout en Italie, comme une grosse pierre qui écrase tout sur son passage. Et dans l'image que nous avons d'Ostie aujourd'hui, le fascisme a bien sûr joué un rôle prépondérant, en bien et en mal, dans le cas d'Ostie, bien sûr. En réalité, pour comprendre ce qui s'est passé en 38-39, et on va y revenir, il faut comprendre ce qui se passait un peu avant. Et c'est une page de l'histoire d'Ostie qu'on oublie souvent dans l'histoire des fouilles, et c'est ce qui se passe au début du XXe siècle, à partir de 1908, quand un autre grand personnage de l'archéologie moderne, qui est Dante Valieri, arrive à Ostie et devient directeur des fouilles. Valieri va transformer complètement cette idée, cette manière de faire à Ostie, qui était celle des frères Visconti et puis qui après a continué après lui. Il va vouloir faire entrer Ostie dans la modernité. Il va vouloir accélérer les fouilles et en même temps offrir une ville qui soit visitable par des touristes. Donc on a une conception déjà de valorisation du patrimoine et de conservation. Donc il va commencer à restaurer beaucoup de choses pour les rendre visitables au public. Et Valieri va faire entrer aussi dans la modernité, on est au début du XXe siècle, et va faire toute une série d'interventions pour faciliter les fouilles. Il va acheter, par exemple, un système de rails, de berlines sur rails, qui sont les rails de Coville, pour accélérer les fouilles, ces berlines tirées par des chevaux, pour enlever plus rapidement la terre. Il va acheter un appareil photo, ce qui est une innovation incroyable. C'est comme si aujourd'hui on achetait un laser scanner de pointe pour les fouilles, ce qui serait déjà une très bonne chose. Il achète aussi donc un appareil photo, il crée des archives photographiques à Ostie, des archives de dessin, et autre grande innovation, il achète une machine à écrire. Ce qui nous semble absurde aujourd'hui, mais il y a vraiment une volonté de mettre en place un programme de fouilles sur plusieurs années. Et c'est ce que vont commencer à faire les successeurs de Valieri. Valieri qui s'était entouré déjà d'une équipe assez performante, où Parmi ses collaborateurs, il y avait Italo Gismondi, qui est un des plus grands architectes du XXe siècle. C'est à lui qu'on doit notamment la grande maquette de Rome, qui est très connue au musée de la Civiltà Romana à l'EUR. Un grand architecte et un grand connaisseur de l'architecture romaine. Un autre de ses collaborateurs, qui va, après quelques années, lui succéder, c'est Guido Calza. Guido Calza, qui est aussi un grand archéologue, qui va reprendre dans les années 20 la direction des fouilles et qui va continuer le programme mis en place par Dante Valieri, qui est d'avoir une fouille systématique de la ville qui avance progressivement. Le problème, c'est que le fascisme arrive. Le fascisme arrive et Mussolini voit dans cette fouille d'Ostie un potentiel énorme, qui est celui d'offrir une ville entière pour des visiteurs. Quel type de visiteurs ? Les visiteurs de son programme grandiloquent qu'il avait imaginé pour la grande exposition universelle de Rome, qui aurait dû se tenir en 1942 et qui forcément a dû être annulée à cause de la guerre. Et les fouilles d'Ostie deviennent la cerise sur le gâteau de ce grand programme propagande et de célébration, en plus des 20 ans du fascisme en 42, etc. Donc il y a toute la symbologie qui est là derrière. Et l'EUR, Esposizione Universale di Roma, sera tout un programme qui va toucher à différents attraits. Dans l'architecture contemporaine, il y aura la construction de tout le quartier de l'EUR, comme on l'appelle encore aujourd'hui, qui est un de ces grands quartiers de Rome construits justement pour montrer l'architecture de ces années-là. Et le modèle de ce grand quartier, c'est Ostie. Ostie qui, au moment même, était mise au jour. Le problème, c'est justement que ces fouilles deviennent motifs de propagande. Et l'objectif n'était plus de continuer ces fouilles de manière scientifique et approfondie, mais d'offrir un parc d'attractions pour les visiteurs de l'exposition universelle de Rome. Ce qui fait que Mussolini va imposer une accélération incroyable aux fouilles d'Ostie, qui avaient été programmées sur plusieurs décennies, mais qui ont dû être rétrécies à un peu moins d'1 an. Et Mussolini va leur donner 700 jours pour fouiller ce qui avait l'équivalent de ce qui avait été fouillé en plus d'un siècle presque de fouilles.
Donc j'imagine que ça induit des conséquences négatives pour le site.
Terrible pour le site. Comme toujours, rien n'est blanc ou noir, disons. C'est grâce à ces fouilles qu'aujourd'hui nous avons une des villes romaines les mieux conservées au monde. Et c'est grâce à ces fouilles que nous avons aujourd'hui une idée pratiquement complète du plan urbanistique de la ville. Sans ça, aujourd'hui, nous ne serions pas encore à ce stade. Donc, tout n'est pas à jeter, bien sûr, mais cela a eu des conséquences néfastes, puisque justement, en un peu plus d'un an, en 2 ans, disons, de fouilles, plus des 2/3 de ce qu'on peut visiter aujourd'hui sur Ostie a été fouillé. Et c'est une fouille qui, forcément, était gérée par les mêmes archéologues, qui sont Guido Calza, qui avait des collaborateurs, mais qui ne pouvaient pas tout suivre, bien sûr. Donc la fouille a été donnée à des entreprises d'ouvriers, 3 grandes entreprises qui devaient travailler en même temps et qui, vu les temps et l'urgence, étaient payées au mètre cube de terre enlevée. Ce qui ferait trembler tout archéologue juste à l'idée d'y penser. Et donc l'objectif n'était pas de fouiller pour comprendre, mais de déterrer pour offrir un parc d'attractions pour les visiteurs de l'exposition universelle de Rome. Ce qui veut dire que, en même temps qu'on fouillait, on devait restaurer. Restaurer puisqu'on avait 2 ans pour tout faire, pour offrir un site visitable où des touristes pouvaient marcher normalement dans les rues, entrer, visiter les maisons, les édifices, etc. Donc une fouille qui n'est pas vraiment une fouille, mais qui est une création pour la propagande du fascisme, puisque l'objectif était d'offrir aux visiteurs une ville qui montre la gloire et la puissance de Rome dans l'Antiquité et
par ricochet
au XXe siècle, exactement.
Mais du coup, des restaurations menées tellement à la hâte, est-ce que ça a causé des dommages irréparables au site ? Comment est-ce que les scientifiques, les archéologues d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça ? Est-ce que ça entrave votre travail aujourd'hui encore ?
C'est une question très très épineuse et on est en train vraiment de se rendre compte de l'importance et de l'impact de ces restaurations des années 30 sur les structures uniquement récemment. Parce que le gros problème de ces restaurations est qu'elles sont faites en même temps que les fouilles. Avec la question du temps qui était fondamentale, il devait aller vite. Et quelle meilleure manière pour restaurer vite que d'utiliser les matériaux de construction qu'on retrouvait pendant les fouilles ? Le gros problème est que toutes les restaurations ont été faites avec des briques antiques, par exemple, avec des matériaux antiques. Comment distinguer le vrai du faux ? Là, c'est tout un art, et ça, heureusement que toute la question de la recherche scientifique à Ostie, qui est très active, est importante, puisque aujourd'hui, heureusement, nous arrivons à distinguer les restaurations, mais uniquement en observant la composition chimique des mortiers. Mortiers qui, par ailleurs, sont réalisés selon les mêmes recettes que les mortiers romains. Donc, à l'œil nu, il est très difficile de distinguer les parties restaurées des parties antiques. Mais ce n'est pas pour cela que Ostie est fausse, puisque c'est la conclusion à laquelle beaucoup de personnes pourraient arriver. Non, en réalité, Ostie est extrêmement bien conservée. Et les restaurations ne se sont limitées qu'aux parties supérieures, aux crêtes des murs. Et en même temps, ces restaurations, qui sont inacceptables pour la déontologie de la restauration contemporaine, puisque une restauration doit être toujours visible et réversible et sans porter dommage aux structures. Ici, ce sont des intégrations plus que des restaurations. Mais ces intégrations, du fait qu'elles ont été réalisées de la même manière que les murs antiques, ont assuré en quelque sorte leur conservation. Si on avait coulé, comme on a fait dans les années 50-60, dans d'autres sites archéologiques, du béton ou du ciment un peu partout, le ciment, nous le savons aujourd'hui, a des effets très néfastes sur la conservation du bâti. Donc d'une certaine manière, ces restaurations sauvages, aussi critiquables qu'elles soient et aussi néfastes, puisque voilà, aujourd'hui, maintenant, maintenant que nous le savons, il faut étudier l'architecture d'Ostie d'une autre manière par rapport à ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans. Mais en même temps, ces restaurations ont permis en quelque sorte la conservation des structures.
Tout ça est très paradoxal.
Bien sûr.
Alors, en vous écoutant parler de ces fouilles, bon, d'abord d'Ostie durant l'Antiquité, ensuite les Médicis qui viennent fouiller, etc., l'unité italienne, Mussolini, on a l'impression que l'histoire d'Ostie se confond d'une certaine manière avec celle de l'Italie. Mais alors, comment expliquer la relative méconnaissance des Italiens par rapport à ce site d'Ostie ?
Ce qui a été la chance d'Ostie était sa proximité avec Rome. Et nous en avons parlé la semaine passée. Ostie prospère quand Rome prospère. Et Ostie gagne dans l'Antiquité de la puissance de Rome. Aujourd'hui, la proximité avec Rome est une sorte de malédiction, si on peut dire ça comme ça pour Ostie, puisque Ostie est un site archéologique exceptionnel, mais son grand défaut est qu'elle est trop proche de Rome. Et n'importe quel site par rapport à Rome, forcément, passe en second plan.
Alors, on parle beaucoup, en tout cas, on va beaucoup parler de la ville, de cette partie de la ville d'Ostie qui a été fouillée. Mais qu'en est-il du port ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément sa localisation ? Est-ce qu'on a retrouvé des infrastructures précises ?
Oui, bien sûr. Et la partie principale du port, qui est le grand bassin hexagonal du port de Trajan, construit peut-être par le grand architecte Apollodore de Damas. Donc, l'emblème, disons, de la structure portuaire est encore conservé aujourd'hui, est un lac, et toutes les personnes qui atterrissent à Rome, à l'aéroport de Fiumicino, qui est à quelques mètres du port, peuvent encore voir aujourd'hui le bassin qui est visible. Malheureusement, le bassin est encore sur des terrains de propriété privée, donc il n'est pas toujours visitable. Mais toutes les parties des structures portuaires sont conservées, ont été rachetées par l'État et sont visitables aujourd'hui. Et le site archéologique de Portus offre énormément d'informations, notamment les entrepôts, les quais, qui sont conservés, qui sont en train d'être étudiés. Et il y a toute une partie de la recherche contemporaine, différentes universités qui travaillent pour restituer l'image de ce port, qui est très complexe puisqu'elle est complètement, toutes les structures sont ensablées et la mer aujourd'hui est à 3 km. À l'ouest.
Alors, l'archéologie a mis en lumière de nombreuses inscriptions. Ostie, de fait, est apparemment le site antique le plus riche en documents épigraphiques après la ville de Rome. Comment l'expliquer ?
On l'explique par le fait qu'Ostie est une ville qui a été fouillée sur une extension gigantesque. Une ville qui, aujourd'hui, la structure fouillée fait 34 hectares. Probablement, dans l'Antiquité, elle en faisait 2-3 fois plus. une ville qui a ses nécropoles qui ont des tombes, et ses tombes qui ont des inscriptions. L'avantage par rapport à d'autres sites est qu'aussi il y a une ville qui vit, qui se transforme et qui a plusieurs phases. Et les fouilles récentes ont montré la ville sous la ville, et donc énormément d'éléments qui sont ressortis en plus de ces phases les plus anciennes. Donc on a à disposition une banque de données qui est illimitable, sans limite.
Et du coup, quelles sont les principales informations que cela apporte sur la population, sur les qu'est-ce qu'on peut en tirer d'une certaine manière?
Nous avons des sources de première main. Nous avons le message que notamment les défunts ont voulu faire passer à la postérité. Donc leur identité, leur profession, leur âge, leurs relations familiales, toute une série d'informations qui nous permettent de brosser le portrait de cette population. Après, bien sûr, on montre toujours la plus belle part de soi, surtout sur des tombes. On n'a pas envie de montrer les défauts, donc on montre les meilleures choses. En même temps, nous avons toute une série d'inscriptions publiques qui nous donnent aussi des éléments sur l'organisation publique, politique, sociale de la ville. Toute la question aussi des corporations, qui a aussi ont livré pas mal de listes de personnes qui nous permettent de dire qu'à un certain moment donné, plusieurs personnes travaillaient dans tel secteur et avaient des liens professionnels ou de parenté, etc. Donc, c'est une fenêtre sur la vie de ces personnes qu'Hostie nous offre, par les inscriptions, mais par les monuments qu'ils nous ont laissés.
Alors, comment l'archéologie, dans le cas d'Hostie, parvient-elle à reconstituer les évolutions sociétales? Par exemple, à nous parler des goûts, des mœurs ou des modes?
Un des éléments principaux d'Hostie est qu'il conserve une quantité gigantesque de structures résidentielles. Et c'est par l'architecture résidentielle romaine que l'on peut véritablement voir cette évolution sociétale. Puisque, beaucoup plus que l'épigraphie, les structures archéologiques conservées nous montrent les changements même dans la manière d'habiter. Puisque nous avons une ville qui vit plusieurs siècles, et on ne vivait pas dans une maison au 1er siècle avant Jésus-Christ comme on vivait au 4e siècle après Jésus-Christ. À Hostie, toutes les différentes manières d'habiter sont conservées. Nous avons des maisons de l'époque républicaine qui sont conservées, des grandes maisons à atrium et péristyle, similaires à celles des cités vésuviennes de Pompéi, Herculanum. Cela ne correspond plus du tout à la manière d'habiter des élites, même au 2e siècle après Jésus-Christ, où, on en a parlé la semaine passée, les personnes vivaient dans des appartements sur plusieurs étages. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas de luxe dans ces maisons, puisque ces appartements, même petits, étaient dotés d'eau courante, parfois même jusqu'au premier étage, avaient de grandes fenêtres, et ça, la fabrication, en tout cas la production de vitres et de verres à fenêtres au 2e siècle après Jésus-Christ permet d'ouvrir ces grandes fenêtres. En même temps, Hostie conserve tous les décors de ces habitations. On pense bien sûr aux mosaïques, et à Hostie, nous avons le plus grand nombre de mosaïques du monde romain, en tout cas parmi les sites les plus riches en mosaïques, mais aussi les peintures murales. Et ça, c'est un aspect un peu moins connu du grand public, puisque les peintures, pour des questions de conservation, ne sont pas toujours visitables, mais elles le seront bientôt, puisque le parc archéologique est en train de mettre en place toute une campagne de restauration de ces peintures pour les rendre accessibles au public. Les peintures sur les murs conservées parfois jusqu'au plafond. Et à Hostie, nous avons les voûtes et les plafonds de ces appartements qui sont peintes et les décorations sont conservées. Tout ceci nous permet de voir l'évolution des goûts, justement, de la société. La manière d'habiter, mais la manière de décorer les espaces qu'on habite. Et c'est là que l'on voit véritablement les différences en termes de goût, surtout en ce 2e siècle après Jésus-Christ, où la société est une société beaucoup plus disparate, plus hétéroclite, plus diversifiée, où le goût personnel peut prendre un peu plus de place par rapport aux productions picturales plus anciennes, où on se conforme beaucoup plus à la mode, qui est la mode d'abord des élites républicaines, puis des empereurs, où c'est pour ça qu'on peut diviser la peinture murale parfois en styles, et ça Pompéi, les styles de Augusta ou le montre, on a le premier, deuxième, troisième et quatrième style, puisque on se conforme beaucoup plus à ce qu'on fait au centre du pouvoir. À l'époque médio-impériale, on a une plus grande variété, peut-être aussi parce qu'on a moins d'éléments qui viennent de Rome, donc c'est plus difficile d'établir des styles ou des règles particulières, mais on peut vraiment deviner le goût personnel des personnes qui ont habité ces espaces. et comment ces goûts évoluent. Et donc en même temps, nous avons différentes modes qui se mettent en place, qu'on peut retrouver à différents endroits au même moment, à Ostie, à Rome, dans le reste de l'Italie ou en Gaule, où on a plusieurs peintures conservées, aussi une école très active qui étudie, restaure et valorise toutes les peintures murales en France. Et donc nous pouvons vraiment voir cette évolution stylistique, aussi technique, liée au goût de cette société.
Alors, les fouilles continuent aujourd'hui. D'ailleurs, vous étiez sur le chantier cet été encore.
Jusqu'à la semaine passée, oui.
Voilà.
Oui.
Ma question va vous sembler peut-être un peu triviale, mais est-ce que des découvertes sont encore possibles aujourd'hui? Vous parliez la semaine passée de cette basilique chrétienne qui resterait encore à fouiller. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui encore, Ostie pourrait réserver des découvertes majeures en termes archéologiques?
Bien sûr, puisque déjà en termes de superficie, on a fouillé plus ou moins un tiers de toute la surface de la ville identifiée. Et ça, l'archéologie contemporaine nous offre plusieurs outils pour fouiller sans fouiller et pour avoir une idée de ce qui se situe sous terre sans mettre la main à la truelle ou plutôt à la pioche, puisque les structures d'Ostie sont ensevelies sur plusieurs mètres de sédiments du Tibre, parfois jusqu'à 5 mètres de sédiments, ça on le sait des archives. Donc il y a énormément à faire encore en termes de superficie pour comprendre comment se structurait la ville. En même temps, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, Ostie est une ville qui a plusieurs phases dans le temps.
Donc plusieurs strates.
Plusieurs strates. Et cela est toujours valable en archéologie, mais encore plus à Ostie, puisque cette ville qui est sujette à beaucoup de sédiments et d'inondations en même temps du Tibre, est une ville qui monte en niveau très rapidement. Aussi parce que la nappe phréatique est très haute à Ostie. C'est une ville qui va devoir lutter contre cette nature qu'elle essaye de dompter, une ville qui monte en niveau pour essayer de lutter contre les remontées d'eau souterraines, notamment. Ce qui est une aubaine pour les archéologues, puisque ça veut dire que les phases plus anciennes sont parfois conservées sur un mètre et demi, deux mètres parfois d'élévation. Puisque pour construire les structures plus récentes, il a fallu enterrer complètement les structures plus anciennes qui servent de fondation aux édifices plus récents. Donc il y a encore énormément à faire, effectivement.
C'est une bonne nouvelle pour vous.
Oui, pour les générations futures.
Il ne faut
pas être trop gourmand.
Alors, Ostie, assez méconnue des Italiens, elle souffre aujourd'hui en tout cas de sa proximité avec Rome. Mais en même temps, elle possède un véritable rayonnement international en termes de recherche. C'est une ville très prisée des archéologues de toutes nationalités confondues.
C'est ce que disent tous les Romains. Les Italiens qui vivent à Rome, c'est le grand paradoxe. Ostie est complètement méconnue des Romains, mais à l'étranger, elle jouit vraiment d'une grande renommée. On le voit de tous les bus de touristes qui venaient et qui espérons reviendront le plus rapidement possible à Ostie. Mais effectivement, Ostie est un site de recherche internationale. Et ça a été le mérite dès la surintendance d'Ostie, qui aujourd'hui, après différentes réformes, s'appelle le parc archéologique d'Ostie, qui a tout de suite voulu ouvrir le site à la recherche internationale. Et c'est un vrai plaisir de travailler sur ce site aujourd'hui, puisque nous pouvons côtoyer énormément de nationalités différentes qui coexistent et qui travaillent ensemble. Nous avons des universités américaines, belges, françaises, espagnoles, allemandes, japonaises, j'espère n'avoir oublié personne, mais en tout cas, une grande richesse du point de vue de la recherche scientifique internationale qui fait qu'Ostie n'est pas qu'un site à visiter, mais un vrai terrain, un laboratoire de recherche archéologique très actif et très vivant.
Les fouilles archéologiques d'Ostie. Merci beaucoup Paolo Tomassini pour vos explications passionnantes. Je signale juste à nos auditeurs que vous trouverez avec ce podcast sur la page donc de storiavoce.com des liens qui vous permettront d'approfondir notre sujet si vous le souhaitez. Merci beaucoup de votre écoute et à très bientôt.